Chapitre 11. Inscription trouvée dans le cimetière de Callistus. Le jour précédent, le 1er de juin, cessa de vivre Prétiosa, une jeune fille, Puella, vierge, âgée seulement de 12 ans, la servante de Dieu et du Christ, sous le consulat de Flavius Vincentius et de Fravitus le consul. Si le savant Thomassin avait connu cette inscription, récemment découverte, quand il prouva avec tant d'autorité que la virginité était professée dans l'Église primitive dès l'âge de 12 ans, il l'aurait certainement citée. En effet, on ne peut douter que la jeune fille, qui était une vierge âgée seulement de 12 ans, la servante de Dieu et du Christ, n'ait été élevée à cet état par une consécration à Dieu. Autrement, son âge si tendre aurait rendu peu étonnant son état de virginité. Mais si l'Église autorisait la consécration à Dieu dès l'âge nubile reconnu par la loi romaine, elle se réservait de donner à un âge un peu plus avancé la consécration solennelle de la Vierge de Dieu quand le voile de la virginité lui était conféré par l'évêque. Cette cérémonie avait lieu généralement le jour de Pâques. Le premier acte de consécration de la jeune fille consistait probablement à recevoir de ses parents et à porter une robe de couleur sombre et unie. Quand le danger se levait menaçant, l'Église avançait de quelques années l'époque de la consécration solennelle et fortifiait, par une bénédiction sainte, les résolutions des épouses du Christ. Une sauvage persécution allait surgir et les plus tendres brebis du troupeau ne devaient pas être épargnées. Ne nous étonnons donc pas de voir celles qui, dans leur cœur, se sont fiancées à l'agneau sans tache, désirer que le jour de leur divine noce précède le jour de leur mort. Ces jeunes et courageuses chrétiennes souhaitaient ardemment que le lys de la virginité fût enlacé à la palme du martyr, qui deviendrait peut-être leur partage. Agnès, dès son enfance, avait choisi pour sa part cet état de sainteté. La sagesse surhumaine qui animait ses paroles et ses actions et qui se mêlait dans son âme innocente à la grâce et à la simplicité d'une enfance candide, devançait les années où, dans l'ordre ordinaire des choses, les cœurs qui soupiraient après le jour des chastes fiançailles auraient pu voir leurs vœux exaucés. Ce fut donc avec empressement qu'elle vit arriver le danger qui lui permettait de revendiquer la dispense des 10 années que la loi ordinaire exigeait pour la consécration virginale. Une autre jeune fille vint faire une demande semblable à la sienne. Nous pouvons penser qu'une sainte amitié avait uni Agnès et Syra depuis la première entrevue où nous les avons mises en présence. Ce sentiment avait encore augmenté de la part d'Agnès en entendant toutes les louanges que Fabiola donnait à son esclave favorite. Les modestes rapports de l'esclave, joints aux propos de Fabiola, avaient convaincu Agnès que l'œuvre à laquelle Syra s'était consacrée tout entière était en bonne main. Elle progressait grâce à la prudence et à la douceur avec lesquelles elle était conduite. Dans ses fréquentes visites à Fabiola, Agnès se contentait d'admirer et d'approuver ce que sa cousine lui redisait des conversations de Syra, mais elle évitait avec soin tout ce qui aurait pu faire soupçonner une entente entre elles. Syra portait comme esclave, Agnès comme parente, le deuil de Fabius. Le changement de leurs vêtements ne pouvait donc faire soupçonner à Fabiola qu'elles avaient ensemble un secret ou qu'elles voulaient accomplir ensemble un vœu. Elle pouvait donc, en toute sûreté, demander à recevoir le même jour la solennelle consécration qui les vouait à une perpétuelle virginité. Leur demande fut favorablement accueillie, mais par des raisons de prudence, on tint le fait soigneusement caché. Syra ne dit son secret à sa jeune amie l'aveugle qu'un jour ou deux avant le remoment de ses noces spirituelles, et elle lui recommanda un silence absolu. « C'est ainsi, lui dit la jeune fille, feignant d'être blessée, que vous gardez pour vous toutes les bonnes choses. Est-ce là de la charité ?»« Ma chère enfant, répondit doucement Syra, ne vous fâchez pas. Il était nécessaire de tenir cette affaire secrète. »« Et sans doute, je ne pourrai pas assister à la cérémonie, malheureuse que je suis. » « Oh, pardon, Cécilia, vous y serez et vous verrez tout ce que vous pourrez. » répliqua Siran en riant. Je ne m'inquiète pas de ce qu'il y aura à voir. Mais dites-moi comment vous serez habillé. Tout est-il prêt ? Siran lui donna une exacte description de sa robe, de son voile, de leur couleur et de leur forme. Que c'est intéressant, dit-elle, et qu'avez-vous à faire ? La jeune fille, que cette curiosité inaccoutumée amusait, lui décrivit minutieusement la courte cérémonie. Encore une question, demanda enfin la jeune aveugle. Quand et où cette cérémonie a-t-elle lieu ? Vous m'avez dit que je pourrais y venir, il faut donc que je sache quand je dois me rendre à cette invitation et où il faut que j'aille. Siran lui répondit que la cérémonie aurait lieu à l'aurore, dans le titre du pasteur, 3 jours après leur conversation. Puis elle ajouta « Mais qui vous rend si curieuse, ma chère ? Je ne vous ai jamais vue ainsi. Je crains que vous ne deveniez tout à fait mondaine. » « Ne vous inquiétez pas de moi. Puisqu'on veut avoir des secrets pour moi, je ne vois pas pourquoi je n'en aurai pas pour les autres. » Siran rit de cette suffisance affectée, car elle connaissait l'humble simplicité du cœur de la pauvre enfant. Elle l'embrassa avec affection et les deux amies se séparèrent. Cécilia se rendit tout de suite chez la noble Lucina, car elle était aimée de toutes les maisons. Dès qu'elle fut introduite près de la pieuse matrone, elle vola vers elle, se laissa tomber à ses pieds en fondant en larmes. Lucina la calma en la caressant doucement et elle fut bientôt remise. Après quelques minutes d'entretien, elle était devenue gaie et joyeuse et elle paraissait avoir mis la noble dame dans un complot dont l'issue semblait la réjouir de tout son cœur. Lorsqu'elle la quitta, elle était alerte et joyeuse et elle se rendit chez Agnès, dans l'hôpital de laquelle demeurait le bon prêtre Dionysius. Il était à la maison. La jeune fille s'agenouilla devant lui et lui parla avec tant de ferveur que le saint prêtre, ému jusqu'aux larmes, lui répondit avec bonté et la consola. Le Te Deum n'était pas encore écrit, mais un hymne de joie de la même sorte éclatait dans le cœur de la jeune aveugle lorsqu'elle se rendit à son humble demeure. Enfin, l'heureux jour se leva. Avant l'aurore, les saints mystères furent célébrés et le plus grand nombre des fidèles s'éloignèrent. Ceux qui devaient avoir quelque fonction dans la cérémonie ou qui avaient demandé instamment d'y assister restèrent seuls. Parmi eux, nous retrouvons Lucina et son fils, les vieux parents d'Agnès et Sébastien. Messira chercha en vain son amie l'aveugle. Elle s'était évidemment retirée avec la foule et la douce esclave craignit de l'avoir blessée par sa réserve lors de leur dernière entrevue. La salle restait encore plongée dans l'obscurité d'un crépuscule d'hiver, bien que le soleil, resplendissant à l'orient, annonça l'aurore d'un jour brillant de décembre. Des cierges parfumés d'une grande dimension étincelaient sur l'autel que des lampes d'or et d'argent entourées d'une douce et radieuse lumière. En face de l'autel était placée la chaire, non moins vénérable que l'autel lui-même, chaire enchâssée maintenant au Vatican, la chaire de Saint-Pierre. Le vénérable pontife se plaça sur la chaire, la crosse à la main, la tiare sur la tête. Autour de lui se rangèrent ses ministres, presque aussi vénérables que lui. Du fond obscur de la chapelle s'éleva un chœur de douce voix, pure comme celle des anges, chantant sur un ton grave et lent une hymne qui exprimait les sentiments reproduits plus tard dans l'hymne « Jesu Corona Virginum ». Alors se déroula, à la douce lumière du sanctuaire, la longue procession des vierges déjà consacrées, conduite par les prêtres et les diacres chargés de ce soin. Au milieu de ces vierges, 2 jeunes filles apparurent, avec leurs vêtements blancs, qui se détachaient à côté des robes sombres de leurs compagnes. Ces 2 jeunes filles étaient les 2 postulantes. Elles suivirent les autres, qui formèrent une ligne de chaque côté. Précédées chacune par 2 prophètes qui les amenèrent jusqu'au pied de l'autel, elles s'agenouillèrent devant le pontife. Leur marraine ou leur caution se tenait près d'elles. On demanda solennellement à chacune des jeunes filles ce qu'elle désirait, et elle répondit en exprimant le désir de recevoir le voile, de pratiquer les devoirs de la vie qu'elle embrassait sous les soins de guides choisis. Car, bien que des vierges consacrées aient commencé à vivre en communauté avant cette époque, un grand nombre continuaient à demeurer chez leurs parents, la persécution les empêchant de vivre cloîtrées. Mais ces vierges avaient une place distincte dans l'Église et elles venaient souvent y recevoir des instructions appropriées à leur état. Alors le pontife adressa aux jeunes aspirantes une fervente allocution. Il leur rappela que l'état qu'elles embrassaient était saint et élevé. Elles étaient appelées à mener sur la terre la vie des anges et à suivre le même état béni dans lequel le Verbe incarné choisit sa sainte mère. Elles devaient arriver au terme du voyage où elles seraient reçues parmi les rangs des hôtes privilégiés qui suivaient partout l'agneau sans tache. Puis le pontife développa la doctrine de saint Paul, écrivant aux Corinthiens que l'état de virginité était supérieur aux autres états. Il rappela en finissant le bonheur de ceux dont l'amour unique en ce monde, au lieu de se flétrir comme les amours de la terre, s'épanouit dans l'éternité. Le bonheur des saints, ajouta-t-il, n'est que l'épanouissement de la fleur que l'amour divin fait germer sur la terre. Après cette courte allocution et l'examen de celles qui aspiraient à l'honneur de devenir les épouses du Christ, le saint pontife bénit les différentes parties de leur habit religieux en accompagnant cette bénédiction de prières à peu près semblables à celles qu'on prononce de nos jours dans ces circonstances. Et les compagnes des deux jeunes vierges les revêtirent de ce costume nouveau. Les deux postulantes allèrent poser leur tête sur l'autel en signe de l'oblation complète qu'elles faisaient de tout leur être. En Occident, on ne coupait pas les cheveux comme en Orient. On leur laissa donc leur longue chevelure. On plaça sur leur tête une couronne de fleurs, car malgré l'hiver, la terrasse fleurie de Fabiola avait fourni sa moisson embaumée. Tout paraissait fini. Agnès, agenouillée au pied de l'autel, restait sans mouvement et comme absorbée dans une radieuse vision que ses yeux, élevés vers le ciel, semblaient contempler. Syrah, agenouillée près d'elle, demeurait courbée sous le poids de la grande faveur qu'on venait de lui accorder. Les jeunes filles étaient si recueillies dans leur action de grâce qu'elles ne remarquèrent pas un léger mouvement dans l'assemblée qui s'agitait comme si un incident imprévu survenait. Elles levèrent la tête en entendant le pontife renouveler sa question. « Ma fille, que désirez-vous ? » Avant qu'elles aient pu se rendre compte de ce qui se passait, elles sentirent chacune une main qui se posait sur elles et entendirent une voix qui leur était également chère répondre « Saint-Père, je désire recevoir le voile de la consécration à Jésus-Christ, mon seul amour en ce monde, sous la responsabilité de ces deux vertueuses vierges qui sont déjà ses heureuses épouses. » Elles étaient remplies d'une grande joie et d'une grande tendresse pour leur nouvelle compagne, qui n'était autre que Cécilia, la pauvre enfant aveugle. Quand elle avait appris de la bouche même de Syrah le bonheur qui l'attendait, Cécilia était accourue chez la noble Lucina, qui la consola bientôt en lui donnant l'espoir qu'on pourrait lui accorder la même grâce qu'à son amie. Elle lui promit de lui fournir tout ce qui serait nécessaire, mais Cécilia lui demanda que la robe fût d'une étoffe commune, comme il convenait pour une pauvre mendiante. Le prêtre Dionysus présenta la requête de la jeune fille au pontife, qui se rendit à sa prière, et comme elle désirait avoir ses deux amis pour caution, on conclut qu'on la conduirait à l'autel après la consécration de ses deux compagnes. Et cependant, Cécilia garda son secret. Le pontife bénit la jeune fille, il consacra son habit et son voile, puis on lui demanda si elle n'avait pas apporté, elle aussi, une couronne de fleurs. Alors elle tira timidement de dessous son voile la couronne qu'elle s'était tressée, une simple branche d'épines arrondie en cercle, et la présentant à la bénédiction du pontife, elle ajouta « Je n'ai pas de fleurs à offrir à mon fiancé, et pour l'amour de moi, il n'en a jamais porté. Je ne suis qu'une pauvre fille, pensez-vous que j'offenserai mon Seigneur en lui demandant pour couronne celle que lui-même a portée ? Puis, les fleurs sont l'emblème des vertus de celles qui les portent, mais mon cœur stérile n'a rien produit de plus odorant que ces épines. » Ses yeux, privés de la lumière, ne purent voir que ses deux compagnes ôtaient ensemble les couronnes de fleurs qui ornaient leur tête pour les poser sur la sienne. mais un geste du pontife les retint, et devant les yeux humides des assistants, l'enfant aveugle fut conduit à l'autel, paré seulement de sa couronne d'épines, emblème de l'enseignement de l'Église qui nous apprend que la véritable reine des vertus, c'est l'innocence couronnée par la pénitence.